interview sur le thème de la semaine, retrouver le fil de l'actualité. Et on est en compagnie du philosophe Dany Robert Dufour. Bonjour.
Bonjour.
Auteur d'un livre sur la fameuse fable des abeilles de Bernard de Mandeville, fable qui date donc du début du XVIIIe siècle et que l'on peut prendre, en tout cas c'est votre thèse, Dany Robert Dufour, comme une matrice peut-être du monde contemporain. On va justement essayer de la faire passer à l'aune de l'actualité, mais d'abord, qui va sans doute nous aider facilement à voir comment, et d'abord un mot sur ce logiciel Mandeville. On connaît la formule, en général on ne connaît que ça, la formule hein, qui est de dire que les vices privés font la vertu publique.
La vertu publique, c'est ça, oui. Alors effectivement, c'est un logiciel du libéralisme et qui va donc arriver jusque maintenant et qui décrit parfaitement notre monde actuel. Et donc ce que j'ai essayé de faire dans la longue introduction que j'ai faite à ces textes de Mandeville, donc qui datent effectivement du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1710, etc., c'est de montrer que cet axiome est un axiome qui est en train de qui fait fonctionner notre monde actuel.
Est-ce que vous pouvez le reprendre, peut-être le reformuler?
Oui,
c'est-à-dire
bien sûr.
Que finalement, c'est pas qu'il faut être méchant pour que ça aille bien, mais c'est si les hommes laissent aller leur nature, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est mieux pour tout le monde.
Oui, alors la fable raconte l'histoire d'une ruche qui est riche parce que tout le monde est un peu voleur sur les bords. Par exemple, un juge peut très bien demander des commissions pour arranger les affaires d'un plaignant. Avec cette commission, il peut se faire construire une belle maison qui emploie un entrepreneur un peu véreux qui lui profite de mauvais matériaux, etc., etc. Et donc, la thèse de Mandeville, c'est que ça fonctionne très très bien comme ça, parce que cela produit de la richesse.
Et si on fait le contraire, ça ne marche pas. Si on met la vertu dans le système...
C'est la deuxième partie de la fable, parce que les braves abeilles sont hantées par la culpabilité, puisqu'elles sont toutes prises dans des opérations de vol, de mensonges, etc. Et elles décident subitement de devenir honnêtes. Et à partir du moment où elles deviennent honnêtes, la ruche diminue, s'appauvrit et finit dans le creux d'un arbre, convoitée par une autre ruche riche qui prend possession de
voilà. Et la morale est assez facile à tirer de tout cela. Dany Robert Dufour, alors maintenant passons à l'actualité. En quoi ce principe-là que vous avez décrit dans cette fable se retrouve dans différents endroits de notre environnement contemporain?
Mais écoutez, nous sommes dans un monde, on l'a vu avec les Panama Papers, avec les Paradise Papers, avec donc toute une série de modalités selon lesquelles on peut contourner, dissimuler les lois, par exemple les lois nationales, qui sont les lois du travail, qui sont les lois fiscales, qui sont les lois environnementales. Et donc il y a toute un fonctionnement du droit qui est très étrange parce que au lieu de rendre la justice, il permet de contourner la justice et il permet
au nom justement de la fable de l'abeille, de la ruche finalement,
ça,
au nom de l'intérêt de la ruche.
Au nom de l'intérêt de la ruche. Par exemple, vous pouvez prendre un exemple de ces grandes sociétés numériques, les fameux GAFA, qui ne payent pas d'impôts dans les pays où ils opèrent, parce qu'ils ont toute une série de moyens pour contourner donc les lois nationales. Et donc voilà, nous sommes dans une façon de contourner constamment la loi et donc de faire un certain nombre de choses qui sont pas justes, mais qui permettent justement la multiplication de des pains, quoi, la multiplication de l'argent.
Ça c'est possible parce que aussi finalement. Il y a une mutation un peu anthropologique de vue du regard, c'est-à-dire que chacun est considéré comme un entrepreneur ou comme un commerçant.
Absolument.
Il doit mettre en valeur ce qu'il est capable de faire.
Absolument. Donc chacun possède un petit capital qu'il faut qu'il fasse fructifier.
Par exemple, prenons le cas des chômeurs, là on voit que finalement c'est leur responsabilité, on en a parlé dans le journal, c'est
exactement.
Leur responsabilité de savoir se débrouiller, et puis comme on les aide, il faut, c'est normal qu'ils soient contrôlés.
Voilà, c'est ça. Donc il y a donc une dimension où chacun devient un entrepreneur de soi et doit faire fructifier son capital quelque que soit son capital. Alors évidemment, ceci donc produit toute une série d'injustices considérables, parce que ces braves chômeurs, par exemple, on leur demande un certain nombre de choses, mais pendant ce temps-là, on donne à d'autres, par exemple avec la modification de l'impôt sur la fortune, les 100 premières familles ont gagné en moyenne chacune 500 000 euros par an. Pendant ce temps-là, on contrôle les chômeurs.
Oui, mais ça aussi, c'est utile, parce que ça permet un ruissellement de la richesse.
Ah oui, bien sûr, c'est la fameuse théorie du ruissellement, dont on sait qu'elle ne fonctionne pas du tout, puisque tout montre que les inégalités de par le monde augmentent d'une façon considérable. Et justement, ça ne ruisselle pas. Alors, ce qui est intéressant chez Mandeville, c'est qu'il dit tout d'une certaine façon. On est au début de la révolution industrielle, on est en 1710, et il dit tout. Il dit soyez voleurs, soyez roublards, soyez menteurs, il faut permettre la prostitution, le vol est excellent, parce que si vous avez 1 million de voleurs, dit-il quelque part, vous aurez 1 million de personnes qui devront refaire les produits que les voleurs ont subtilisés. Donc tout ça est bon, finalement. La destruction est bonne, le grand incendie de Londres était excellent parce qu'il a fallu reconstruire complètement Londres. Et donc, toutes ces...
C'est ce qu'on appelle l'utilitarisme, peut-être ?
Oui, absolument, oui, bien sûr. Tout ça est finalement très utile.
L'utilitarisme paraît, comme morale, en fait.
C'est ça. Tout ce qui paraît, au premier abord, répréhensible du point de vue de la morale, finalement, du point de vue des conséquences, c'est le conséquentialisme, c'est l'utilitarisme, peut apporter, finalement, des bienfaits qui ne sont pas du tout... il n'y a plus donc du tout à considérer la vertu des actions que l'on dans lesquelles on s'engage, mais les conséquences de ces actions. C'est la théorie donc utilitariste. Alors l'intérêt de Mandeville, c'est qu'il nous dit tout. Il nous dit tout, donc il faut mentir, il faut voler, il faut permettre la prostitution, il faut fermer les institutions de charité pour les jeunes pauvres.
Et, bon, ça au nom de quoi, par exemple, fermer les...
Parce que ça fait disparaître donc une main d'œuvre qui va être formée et qui va ne plus vouloir faire des tâches pénibles. Donc pour que main d'œuvre puisse continuer à être employée, il ne faut pas former les enfants de pauvres, les accueillir dans des maisons de charité.
Alors, tout cela, quand même, se passe. On revient peut-être aussi à aujourd'hui, avec le film de Ridley Scott, par exemple, je ne sais pas. Mais c'est quand même un amoralisme, en tout cas, au sens traditionnel du terme.
Absolument.
Et cependant, il y a quand même beaucoup de morale qui revient.
Tout à
Alors,
fait.
Comment vous expliquez ce paradoxe?
Écoutez, c'est... Mandeville dit tout. Il dit trop. Et donc, il faut le cacher, il faut le dissimuler, il faut le refouler. Et c'est ce qu'on a fait avec Mandeville, qui était extrêmement célèbre au XVIIIe siècle. Célèbre pour les scandales, le scandale de sa pensée. Et donc, il a été condamné par le grand jury de Londres. Son livre a été mis à l'index et brûlé sur la place de Paris. Et ensuite, il a été occulté jusqu'au XXe siècle. C'est pour ça qu'il faut le sortir. Et c'est pour ça que je le ressors.
Voilà.
C'est
jusqu'à
parce
vous,
que, justement, il dit tout.
Oui.
Alors, il dit tout. Et donc, c'est le problème. C'est que... si je puis dire, si vous me permettez d'utiliser ce syntagme, en même temps, il faut tout cacher.
C'est ça, il faut tout dire et tout cacher, d'où...
Il faut tout dire, donc il dit tout, mais en même temps, il faut tout cacher. Donc, il y a donc une surcouche, qui est une surcouche moralisante, qui apparaît sur toute une série d'actions, qui vient masquer ces actions. Donc, par exemple, dans ce film, il faut faire disparaître numériquement cet acteur, ou il faut le remplacer, etc., et la morale, donc, paraît sauve. Donc, en même temps que ce principe, qui est un principe extrêmement prédateur, s'affirme, il faut affirmer en même temps, si je réemploie ce syntagme qui, vous le savez, n'est pas tout à fait de moi, il faut en même temps affirmer donc une surcouche morale qui dissimule et qui masque l'ensemble de ces opérations prédatrices.
N'est-il pas vrai, malgré tout, que la liberté laissée aux personnes permet une meilleure société, un intérêt de tous ?
Oui, bien sûr.
La main invisible.
Oui, bien sûr. Ça, oui, bien sûr. Il y a des aspects qui sont des aspects qui apportent des bénéfices aux personnes par rapport à donc une emprise qui serait une emprise tyrannique. Bon, mais le problème, c'est que il se produit donc toute une série d'actions qui sont des actions entreprises au nom de l'intérêt et au nom de l'égoïsme, et comme ça, c'est pas très beau à voir, donc il y a toute une série de dissimulations dans le discours, et il faudrait... nous avons un président qui est très habile, justement, dans la juxtaposition de ces deux types de discours. Et je crois que là, il faudrait essayer d'analyser ceci comme une opération rhétorique ou une opération sophistique qui consiste à dire une chose et en même temps, je reprends encore, dire la chose contraire de façon à dissimuler un peu ce qu'on ne peut pas affirmer aussi crûment.
Dany Robert Dufour, j'appelle que La Fable des abeilles est éditée en poche chez Pocket, donc avec une longue introduction de vous sur l'écho du texte dans l'histoire, ou le peu d'écho finalement qu'il a eu. Je recommande aussi le fameux texte sur l'apologie des maisons de joie, qui a eu aussi beaucoup de succès à l'époque. Demain, on est avec l'historienne Sophie Vanisch. Il y a 3 départements qui restent concernés par la vigilance orange vent violent, l'Ariège, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, temps généralement instable cet après-midi, 5 à 15 degrés du nord au sud, édition réalisée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal des 8h avec Lise Verbeck.